Et la vôtre, Clarence Rodriguez, pour le journal. Bonsoir.
Bonsoir Julie, bonsoir à tous. Jour de vote en Espagne, les Espagnols appelés aux urnes pour les élections législatives anticipaient un scrutin incertain avec une question centrale. Quel sera le poids de l'extrême droite à l'issue du scrutin? Dans ce journal, nous irons à Madrid rejoindre notre correspondante Marie-Hélène Ballestero. Au Soudan, les contestataires et l'armée sont tombés d'accord pour se partager le pouvoir. Un compromis qui intervient 2 semaines après la destitution du président Omar al-Béchir, chassé du pouvoir par des manifestants qui réclament un pouvoir civil, un accord fragile pour Marc Lavergne, directeur de recherche au CNRS, spécialiste du Soudan. Vous l'entendrez dans quelques instants. L'INSEE doit publier mardi prochain sa première estimation de la croissance dans le pays au premier trimestre. Des résultats qui s'annoncent a priori bons. Les économistes sont plutôt optimistes. L'un d'entre eux nous expliquera dans ce journal pourquoi il y a lieu de se réjouir. Jour de vote en Espagne. Les Espagnols votent depuis ce matin pour des élections législatives anticipées. Un scrutin incertain avec une question centrale. Quel sera le poids de l'extrême droite à l'issue du scrutin? Alors on retrouve à Madrid notre correspondante Marie-Hélène Ballestero. Est-ce qu'on a déjà une idée, Marie-Hélène, de la participation?
Alors, le taux de participation, on peut dire qu'il a nettement augmenté dans toute l'Espagne et notamment en Catalogne, où à 14 heures, il avait grimpé de 11 points par rapport aux dernières élections législatives en 2016. Et dans les régions indépendantistes, la participation atteint son record historique. On imagine que le procès des leaders indépendantistes catalans qui a lieu actuellement à la Cour suprême à Madrid a provoqué une très forte mobilisation. Il faut dire aussi que l'enjeu de ces élections est crucial pour les Espagnols. Alors à droite, les électeurs cherchent à tout prix à virer Pedro Sanchez du palais de la Moncloa car il n'a pas, selon eux, défendu suffisamment l'unité de l'Espagne. Les électeurs de gauche ont surtout très peur de l'arrivée de Vox au Parlement espagnol car c'est une première ici depuis la mort de Franco. Autant de sujets cruciaux qui expliquent cette forte mobilisation. On devrait connaître un nouveau taux de participation dans quelques minutes.
Alors Pedro Sanchez, donné a priori, favori, et l'extrême droite tant redoutée, et se trouve actuellement en embuscade?
Oui, c'est tout à fait ça. Et on peut dire que pour l'instant, on sait que le Parti socialiste de Pedro Sanchez devrait remporter ces élections. Et c'est quasiment la seule certitude que l'on ait actuellement, Clarence, car tout est possible. Tout d'abord, parce que le paysage politique espagnol n'a jamais été aussi éclaté. Après l'arrivée de Podemos et de Ciudadanos, c'est désormais un parti d'extrême droite, Vox, comme vous le disiez, qui va donc faire son entrée fracassante au Parlement espagnol. Et ce soir, 5 formations devraient obtenir plus de 12% de vote. Le bipartisme en Espagne semble désormais bien loin, ce qui veut dire aussi qu'aucun parti ne devrait obtenir la majorité absolue au Parlement et qu'il faudra absolument nouer des alliances. Et en Espagne, on n'est pas très habitué au jeu des alliances. Alors, a priori, les pactes devraient être plus simples en suivant la logique des deux blocs entre les partis de la gauche d'un côté et de la droite de l'autre, car pendant cette campagne électorale, on a bien aperçu qu'une division très forte s'est imposée entre la droite et la gauche.
Merci Marie-Hélène Ballestero en direct de Madrid. Au Soudan, les contestataires et l'armée d'accord pour se partager le pouvoir. Ce compromis intervient 2 semaines après la destitution du président Omar al-Béchir, chassé du pouvoir par des manifestations qui réclament un pouvoir civil et le jugement de l'ancien président et des principaux responsables de son régime. Cet accord constitue une première étape, certes fragile, pour Marc Lavergne, directeur de recherche au CNRS, spécialiste du Soudan. Il est interrogé par Benoît Bouscarel.
Il faut évidemment se réjouir de ce que l'échéance d'affrontement de nouveau soit repoussée et prendre cet accord comme un élément extrêmement positif qui montre que quand même il y a une volonté des deux côtés de trouver une solution à la situation actuelle. Alors je pense que quand même il y a des arrière-pensées du côté des militaires comme du côté des civils. Les militaires essayent de gagner du temps pour sauver ce qui peut l'être de leur pouvoir, tandis que les civils, eux, sont au contraire pressés d'aboutir à un accord qui officialise finalement le succès de la révolution.
Il y a tout un tas de parties extérieures, étrangères, qui n'ont pas tiré les ficelles, mais au moins tentent de peser leur poids sur les militaires, mais aussi sur les civils.
Oui, alors il y a effectivement du côté des pays voisins et puis aussi des forces qui les soutiennent, c'est-à-dire de l'Égypte, des pays du Golfe comme l'Arabie Saoudite et les Émirats, et puis derrière les puissances occidentales, il y a beaucoup d'inquiétude à la perspective de voir une démocratie s'installer au Soudan. Je pense qu'il y a même des pays qui sont franchement hostiles à cette expérience démocratique, évidemment les premiers cités, hein, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, qui donc font contre mauvaise fortune bon cœur, c'est-à-dire essayent d'aider les militaires en apportant un soutien financier, par exemple, en maniant à la fois la carotte et le bâton, je dirais, hein, parce qu'il y a quand même aussi des menaces d'intervention ouvertes ou non, militaires ou non, pour déstabiliser le Soudan. Et puis d'un autre côté, il y a cette aide de manière à calmer la population, hein, pas plus que ça, une aide financière qui devrait aider les militaires à rétablir une sorte de stabilité et espérer faire revenir les gens chez eux. Et puis du côté des civils, je dirais que le danger est plus intérieur, c'est-à-dire la division de cette opposition qui fait front commun actuellement derrière l'appareil des syndicats professionnels et puis aussi derrière des partis politiques qui ont une existence historique, qui ont un poids, qui ont une représentativité dans la population, mais dont on sait historiquement qu'ils sont plus aptes à se déchirer qu'à se réunir. Et donc c'est un peu contre ces démons anciens qu'il faut qu'ils se préservent. Hein. Toute cette coalition de l'opposition, elle a été un peu prise de court. Finalement, c'est le mouvement de la rue, le mouvement social contre les difficultés économiques qui a enclenché toutes ces dynamiques. Et donc, je pense que ces partis politiques qui ont survécu à 30 ans de dictature, il faut qu'ils arrivent à se reconstruire et puis à dialoguer entre eux pour arriver à établir une plateforme commune.
Marc Lavergne, directeur de recherche au CNRS, spécialiste du Soudan, il répondait à Benoît Bouscarel. Et d'autre part, les Émirats Arabes Unis ont annoncé aujourd'hui leur intention de déposer 250 millions de dollars à la Banque centrale du Soudan pour aider financièrement ce pays en crise. Ce dépôt s'inscrit dans le cadre de l'aide conjointe de 3 milliards de dollars annoncée la semaine dernière par les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. Alors que des élections législatives se tiennent ce dimanche au Bénin, sans les partis d'opposition qui n'ont pas été autorisés à concourir, les réseaux sociaux et services de messagerie sont difficilement accessibles. L'Internet mobile est par endroits complètement coupé. Ce petit pays de 11 millions d'habitants est souvent présenté comme un modèle de démocratie en Afrique, mais le président béninois, Patrice Talon, le Parlement a en effet voté un nouveau code électoral qui écarte de fait les partis qui ne lui sont pas apparentés. Nouveau dimanche de mobilisation pour les Algériens de Paris, alors qu'Abdelaziz Bouteflika a démissionné au début du mois. Ils ont manifesté pour le 10e week-end consécutif. Revendication affichée désormais, le départ des figures du système de l'ancien président. L'élection présidentielle pour élire un successeur doit se tenir le 4 juillet prochain. Ils reprochent qu'elle soit organisée par des structures et des personnalités héritées du régime Bouteflika. Des excuses du New York Times dans son édition internationale de jeudi dernier. Le quotidien américain, réputé pour sa ligne éditoriale plutôt sérieuse, a publié une caricature au relent antisémite. On y voit le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou tenu en laisse par un Donald Trump aveugle. À New York, Loïc Loury.
L'image était offensante et c'était une erreur de jugement de la publier. Le New York Times présentait ainsi ses excuses hier sur Twitter après l'apparition du fameux dessin jeudi dernier. Une illustration qui comprenait des clichés antisémites, reconnaît le quotidien. Sur celle-ci, on peut voir Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, sous les traits d'un chien guide, étoile de David autour du cou. Il est tenu en laisse par un Donald Trump aveugle et coiffé d'une kippa, manière de dire certainement que le premier a guidé la politique du second au Proche-Orient. Donald Trump, pourtant si prompt à attaquer les médias et à défendre son allié, ne s'est pour l'instant pas exprimé. Son fils, Donald Trump Jr., s'en est chargé. Sur Twitter, il dénonce un dessin antisémite, répugnant. Imaginez, dit-il, que cela se passe dans un journal qui ne soit pas de gauche. Une idée régulièrement portée par son père, qui accusait encore les démocrates, il y a quelques semaines, d'être devenu un parti anti-juif.
Après la fusillade de lundi dernier qui a coûté la vie à un jeune de quartier, une marche silencieuse était organisée aujourd'hui à Nantes pour protester contre la guerre des quartiers. Appelée Marche de l'Espoir, elle s'était lancée de chaque lieu récemment touché par des fusillades pour ensuite converger vers le centre-ville. À Nantes, Pascal Boucherie.
Ils arrivent de tous les quartiers nantais, ceux qui font trop souvent la une des faits divers. Bellevue, les Dervalières, Le Breil, le Chêne des Anglais, Malakoff, convergence des cortèges en centre-ville et grande satisfaction des organisateurs.
Franchement super, bah on voit le niveau du monde, donc nickel, on est hyper contents. C'est ce que je disais, le message est bien passé sur les réseaux sociaux, donc ça fait son petit chemin et son effet de boule de neige, donc du coup on est hyper contents.
Vêtus de noir, parfois une rose blanche à la main et un seul message, ne laissons pas la violence tuer l'espoir dans nos quartiers. Sima habite à Beaulieu.
Il y a énormément de personnes qui ont peur, hein, qui entendent des bruits, on entend des coups de fusil. Il faudrait trouver des solutions pour que puissent vivre en paix tous les quartiers, malheureusement.
Entre les rails du tramway et le miroir d'eau, les prises de parole se multiplient et c'est l'espoir qui résonne.
Parce que nous, on y croit. Nous, on a envie d'aider nos jeunes. Nous, on a envie d'aider nos citoyens, nos enfants à devenir de bonnes personnes. Il n'y a plus de race, il n'y a plus de religion, il n'y a plus de quartier. On parle d'humanité et de cœur. Et tous ensemble, on fera de nos quartiers des beaux quartiers. Parce que c'est ce qu'ils sont en réalité.
Marlène Schiappa est-elle prise en flagrant délit de fake news? C'est en tout cas ce que lui reproche aujourd'hui le syndicat des commissaires de la police nationale. Invitée jeudi dernier chez nos collègues de France Bleu Touraine, la secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes a assuré que jusqu'à peu, les meurtres de femmes par leurs conjoints étaient qualifiés d'accidents domestiques. Faux, lui répondent les commissaires et les avocats. On ne parle pas d'accidents domestiques, mais bien de meurtres, assure-t-il. Chaque année, en France, près de 220 000 femmes subissent des violences de la part de leurs conjoints ou ex-conjoints. Depuis le début de l'année, 39 ont été tuées par leurs compagnons. Comment se porte l'économie française? L'INSEE doit publier mardi sa première estimation de la croissance dans le pays au premier trimestre. Les économistes sont plutôt optimistes, comme Philippe Wächter, chef économiste de Strum Asset Management, en cause notamment la consommation dopée par une hausse du pouvoir d'achat après les annonces du président de la République en décembre dernier, et notamment la prime de fin d'année défiscalisée notamment.
On devrait avoir des chiffres plutôt robustes pour le premier trimestre. Les enquêtes qui sont menées auprès des chefs d'entreprise se tiennent plutôt bien, contrairement à d'autres pays européens, je pense à l'Allemagne. Et les indicateurs sur la production industrielle, qui sont très précieux dans l'estimation de l'évolution du PIB trimestre par trimestre, sont plutôt encourageantes et suggèrent un chiffre entre 0,4 et 0,5% au cours du premier trimestre. L'économie française commence l'année 2019 sur de bons rails par rapport à ce qu'on avait pu imaginer à la fin de l'année dernière, qui était plutôt négatif.
Et alors, qu'est-ce qui peut expliquer ces probables bons débuts?
Il y a un rebond très, très significatif de la production industrielle. Les entreprises françaises retrouvent de l'activité et c'est ce facteur-là qui est clé dans ce qu'on peut voir. L'autre point, c'est que l'activité reste plutôt bonne sur l'économie française, qui est probablement en raison des mesures qui ont été adoptées à la fin de l'année par le gouvernement, qui ont un peu dopé le pouvoir d'achat. Tous ces facteurs ont joué plutôt favorablement et expliquent ce chiffre qui sera probablement un peu meilleur que ce qu'on avait envie d'imaginer.
Philippe Wächter, chef économiste d'Ostrom Asset Management, il était interrogé par Cyprien Pézeril. Et pour terminer, un mot du temps, nuages et grisailles persisteront une bonne partie de la matinée, puis belles éclaircies l'après-midi, soleil sur le pourtour méditerranéen dès le matin. Mais attention au Mistral, il soufflera jusqu'à 60 à 80 km l'heure. Des températures en baisse, 0 et 5 degrés sur le quart nord-est jusqu'à la Normandie, le centre et le massif central, avec quelques gelées dans le Grand Est, 15 à 19 degrés ailleurs, du nord au sud et jusqu'à 20 au bord de la Méditerranée.